Au matin, il vit des ibis immobiles sur une patte au bord de l'eau qui reflétait leurs coups pâles et roses. Les saules étendaient au loin sur la berge leur doux feuillage gris. Des grues volaient en triangle dans le ciel clair et l'on entendait parmi les roseaux le cri des hérons invisibles. Le fleuve roulait à perte de vue ses larges eaux vertes où des voiles glissaient comme des ailes d'oiseaux, où, çà et là, au bord, se mirait une maison blanche, et sur lesquelles flottaient au loin des vapeurs légères, tandis que des îles lourdes de palmes, de fleurs et de fruits laissaient s'échapper de leurs ombres des nuées bruyantes de canards, d'oies, de flamands et de sarcelles. À gauche, la grande vallée étendait jusqu'au désert ses champs et ses vergers, qui frissonnait dans la joie, et le soleil dorait les épis, et la fécondité de la terre s'exhalait en poussières odorantes. À cette vue, Paphnus, tombant à genoux, s'écria « Béni soit le Seigneur qui a favorisé mon voyage, toi qui répands ta rosée sur les figuiers de l'Arsinoïtide, mon Dieu, fais descendre la grâce dans l'âme de cette Thaïs que tu n'as pas formée avec moins d'amour que les fleurs des champs et les arbres des jardins. Puisse-t-elle fleurir par mes soins comme un rosier balsamique dans ta Jérusalem céleste ?» Et chaque fois qu'il voyait un arbre fleuri ou un brillant oiseau, il songeait à Thaïs. C'est ainsi que, longeant le bras gauche du fleuve à travers des contrées fertiles et populeuses, il atteignit en peu de journées cette Alexandrie que les Grecs ont surnommée la Belle et l'Adorée. Le jour était levé depuis une heure, quand il découvrit du haut d'une colline la ville spacieuse dont les toits étincelaient dans la vapeur rose. Il s'arrêta et, croisant les bras sur sa poitrine, « Voilà donc, se dit-il, le séjour délicieux où je suis né dans le péché, l'air brillant où j'ai respiré des parfums empoisonnés, la mer voluptueuse où j'écoutais chanter les sirènes. Voilà mon berceau selon la chair, voilà ma patrie selon le siècle. Berceau fleuri, patrie illustre au jugement des hommes. Il est naturel à tes enfants, Alexandrie, de le chérir, comme une mère, et je fus engendré dans ton sein magnifiquement paré. Mais l'ascète méprise la nature, le mystique dédaigne les apparences, le chrétien regarde sa patrie humaine comme un lieu d'exil, le moine échappe à la terre. J'ai détourné mon cœur de ton amour, Alexandrie, je te hais. Je te hais pour ta richesse, pour ta science, pour ta douceur et pour ta beauté. Sois maudit, temple des démons. Couche impudique des gentils, chair empestée des Ariens, sois maudite. Et toi, fils ailé du ciel qui conduisit le saint ermite Antoine, notre père, quand, venu du fond du désert, il pénétra dans cette citadelle de l'idolâtrie pour affermir la foi des confesseurs et la constance des martyrs. Bel ange du Seigneur, invisible enfant, premier souffle de Dieu, vole devant moi et parfume du battement de tes ailes l'air corrompu que je vais respirer parmi les princes ténébreux du siècle. Il dit et reprit sa route. Il entra dans la ville par la porte du soleil. Cette porte était de pierre et s'élevait avec orgueil. Mais des misérables, accroupis dans son ombre, offraient aux passants des citrons et des figues, ou mendiaient une obole en se lamentant. Une vieille femme en haillons, qui était agenouillée là, saisit le cilice du moine, le baisa et dit « Homme du Seigneur, bénis-moi afin que Dieu me bénisse. J'ai beaucoup souffert en ce monde, je veux avoir toutes les joies dans l'autre. » Tu viens de Dieu, ô saint homme, c'est pourquoi la poussière de tes pieds est plus précieuse que l'or. Le Seigneur soit loué, dit Paphnus, et il forma de sa main entrouverte le signe de la rédemption sur la tête de la vieille femme. Mais à peine avait-il fait 20 pas dans la rue qu'une troupe d'enfants se mit à le huer et à lui jeter des pierres en criant « Oh, le méchant moine! Il est plus noir qu'un cynocéphale et plus barbu qu'un bouc. C'est un fainéant que le pend-on dans quelques vergers comme un Priam de bois pour effrayer les oiseaux. Mais non, alors il attirerait la grêle sur les amandiers en fleurs. Il porte malheur. Qu'on le crucifie, le moine, qu'on le crucifie !» Et les pierres volaient avec les cris. « Mon Dieu, bénissez ces pauvres enfants !» murmura Paphnus. Et il poursuivit son chemin en songeant « Je suis en vénération à cette vieille femme et en mépris à ses enfants. Ainsi, un même objet est apprécié différemment par les hommes qui sont incertains dans leur jugement et sujets à l'erreur. Il faut en convenir. Pour un gentil, le vieillard Timoclès n'est pas dénué de sens. Aveugle, il se sait privé de lumière. Combien il l'emporte pour le raisonnement sur ces idolâtres qui s'écrient du fond de leur épaisse ténèbre. Je vois le jour. Tout dans ce monde est mirage et sable mouvant. En Dieu seul est la stabilité. » Cependant, il traversait la ville d'un pas rapide. Après 10 années d'absence, il en reconnaissait chaque pierre, et chaque pierre était une pierre de scandale qui lui rappelait un péché. C'est pourquoi il frappait rudement de ses pieds nus les dalles des larges chaussées, et il se réjouissait d'y marquer la trace sanglante de ses talons déchirés. Laissant à sa gauche les magnifiques portiques du temple de Sérapis, il s'engagea dans une voie bornée de riches demeures qui semblaient assoupies parmi les parfums. Là, les pins, les érables, les térébintes élevaient leurs têtes au-dessus des corniches rouges et les acrotères d'or. On voyait, par les portes entrouvertes, des statues d'airain dans des vestibules de marbre et des jets d'eau au milieu du feuillage. Aucun bruit ne troublait la paix de ces belles retraites. On entendait seulement le son lointain d'une flûte. Le moine s'arrêta devant une maison assez petite, mais de noble proportion, et soutenue par des colonnes gracieuses comme des jeunes filles. Elle était ornée des bustes en bronze des plus illustres philosophes de la Grèce. Il y reconnut Platon, Socrate, Aristote, Épicure et Zénon, et ayant heurté le marteau contre la porte, il attendit en songeant. C'est en vain que le métal glorifie ses faux sages. Leurs mensonges sont confondus. Leurs âmes sont plongées dans l'enfer. Et le fameux Platon lui-même, qui remplit la terre du bruit de son éloquence, ne dispute des orques, mais qu'avec les diables. Un esclave vint ouvrir la porte et trouvant un homme pieds nus sur la mosaïque du seuil, il lui dit durement « Va mendier ailleurs, moine ridicule, et n'attends pas que je te chasse à coups de bâton. » « Mon frère, répondit l'abbé d'Antonie, je ne te demande rien, sinon que tu me conduises à Nicias, ton maître. » L'esclave répondit avec plus de colère « Mon maître ne reçoit pas des chiens comme toi. » « Mon fils, reprit Paphnus, fais, s'il te plaît, ce que je te demande et dis à ton maître que je désire le voir. »« Hors d'ici, vil mendiant !» s'écria le portier furieux. Et il leva son bâton sur le saint homme, qui, mettant ses bras en croix contre sa poitrine, reçut sans s'émouvoir le coup en plein visage, puis répéta doucement « Fais ce que je t'ai demandé, mon fils, je te prie. » Alors le portier, tout tremblant, murmura « Mais quel est cet homme qui ne craint point la souffrance ?» Et il courut avertir son maître. Nicias sortait du bain. De belles esclaves promenaient les strigiles sur son corps. C'était un homme gracieux et souriant. Une expression de douce ironie était répandue sur son visage. À la vue du moine, il se leva et s'avança les bras ouverts. C'est toi! S'écria-t-il Paphnutius, mon condisciple, mon ami, mon frère. Oh, je te reconnais, bien qu'à vrai dire, tu ne sois rendu plus semblable à une bête qu'à un homme. Embrasse-moi! Te souviens-tu du temps où nous étudions ensemble la grammaire, la rhétorique et la philosophie? On te trouvait déjà l'humeur sombre et sauvage, mais je t'aimais, moi, pour ta parfaite sincérité. Nous disions que tu voyais l'univers avec les yeux farouches d'un cheval et qu'il n'était pas surprenant que tu fusses ombrageux. Oh, tu manquais un peu d'atticisme et ta libéralité n'avait pas de bornes. Tu ne tenais ni à ton argent ni à ta vie, et il y avait en toi un génie bizarre, un esprit étrange qui m'intéressait infiniment. Sois le bienvenu, mon cher Paphnutius, après 10 ans d'absence. Tu as quitté le désert, hein? Tu renonces aux superstitions chrétiennes et tu renais à l'ancienne vie. Je marquerai ce jour d'un caillou blanc. Comme il est myrtale, ajouta-t-il en se tournant vers les femmes, parfumez les pieds, les mains et la barbe de mon cher hôte. Déjà, elles apportaient en souriant les guillères, les fioles et le miroir de métal. Mais Paphnutius, d'un geste impérieux, les arrêta, éteint les yeux baissés pour ne les plus voir, car elles étaient nues. Cependant, Nicias lui présentait des coussins, lui offrait des mets, des breuvages divers, que Paphnutius refusait avec mépris. Nicias, dit-il, je n'ai pas renié ce que tu appelles faussement la superstition chrétienne, et qui est la vérité des vérités. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. « Cher Paphnutius, répondit Nicias, qui venait de revêtir une tunique parfumée, penses-tu m'étonner en récitant des paroles assemblées sans art, et qui ne sont qu'un vain murmure ? As-tu oublié que je suis moi-même quelque peu philosophe ? Et penses-tu me contenter avec quelques lambeaux arrachés par des hommes ignorants à la pourpre d'Amélius, quand Amélius, Porphyre et Platon, dans toute leur gloire, ne me contentent pas ? Les systèmes construits par les sages ne sont que des contes imaginés pour amuser l'éternelle enfance des hommes. Il faut s'en divertir comme des contes de l'âne, du cuvier, de la matrone d'Éphèse, ou de toute autre fable milésienne. Et, prenant son hôte par le bras, il l'entraîna dans une salle où des milliers de papyrus étaient roulés dans des corbeilles. « Voici ma bibliothèque, dit-il, elle contient une faible partie des systèmes que les philosophes ont construits pour expliquer le monde. Le Sérapéum lui-même, dans sa richesse, ne les renferme pas tous. Hélas, ce ne sont que des rêves de malades. » Il força son hôte à prendre place dans une chaise d'ivoire et s'assit lui-même. Paphnutius promena sur les livres de la bibliothèque un regard sombre et dit « Il faut les brûler tous !»« Oh, doux hôte, ce serait dommage !» répondit Nicias. « Car les rêves des malades sont parfois amusants. D'ailleurs, s'il fallait détruire tous les rêves et toutes les visions des hommes, la terre perdrait ses formes et ses couleurs, et nous nous endormirions tous dans une mort de stupidité. » Paphnutius poursuivait sa pensée. Bon, il est certain que les doctrines des païens ne sont que de vrais mensonges. Mais Dieu, qui est la vérité, s'est révélé aux hommes par des miracles et s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nicias répondit, bon, tu parles excellemment, cher tête de Paphnutius, quand tu dis qu'il s'est fait chair. Un dieu qui pense, qui agit, qui parle, qui se promène dans la nature, comme l'anticuliste sur la mer glauque, est tout à fait un homme. Comment penses-tu croire à ce nouveau Jupiter, quand les marmots d'Athènes au temps de Périclès ne croyaient déjà plus à l'ancien ? Mais laissons cela. Tu n'es pas venu, je pense, pour disputer sur les trois hypostases. Que puis-je faire pour toi, mon vieux cher condisciple ? Une chose tout à fait bonne, répondit l'abbé d'Antinoé. Me prêter une tunique parfumée semblable à celle que tu viens de revêtir. Ajoute à cette tunique, par grâce, des sandales dorées et une fiole d'huile pour oindre ma barbe et mes cheveux. Il convient aussi que tu me donnes une bourse de 1000 drachmes. Voilà, Onisias, ce que j'étais venu te demander pour l'amour de Dieu et en souvenir de notre ancienne amitié. Nicias fit apporter par Chromil et Myrtal sa plus riche tunique. Elle était brodée dans le style asiatique de fleurs et d'animaux. Les deux femmes la tenaient ouverte et elles en faisaient jouer habilement les vives couleurs, en attendant que Paphnus retirât le cilice dont il était couvert jusqu'aux pieds. Mais le moine ayant déclaré qu'on lui arracherait plutôt la chair que ce vêtement, elles passèrent la tunique par-dessus. Comme ces deux femmes étaient belles, elles ne craignaient pas les hommes, bien qu'elles fussent esclaves. Elles se mirent à rire de la mine étrange qu'avait le moine ainsi parée. Chromil appelait son cher satrape en lui présentant le miroir et Myrtal lui tirait la barbe. Mais Paphnus priait le Seigneur et ne les voyait pas. Ayant chaussé les sandales dorées et attaché la bourse à sa ceinture, il dit à Nicias, qui le regardait d'un œil égayé, « Oh, Nicias, il ne faut pas que les choses que tu vois soient un scandale pour tes yeux. Sache bien que je ferai un pieux emploi de cette tunique, de cette bourse et de ces sandales. » Très cher, répondit Nicias, je ne soupçonne point le mal, car je crois les hommes également incapables de mal faire et de bien faire. Le bien et le mal n'existent que dans l'opinion. Le sage n'a pour raison d'agir que la coutume et l'usage. Je me conforme aux préjugés qui règnent à Alexandrie. C'est pourquoi je passe pour un honnête homme. Bien, va, mire, réjouis-toi. Mais Paphnus songea qu'il convenait d'avertir son hôte de son dessein. « Tu connais, lui dit-il, cette Thaïs qui joue dans les jeux du théâtre ?»« Oh, elle est belle, répondit Nicias, et il fut un temps où elle m'était chère. Oh, j'ai vendu pour elle un moulin et 2 champs de blé, et j'ai composé à sa louange 3 livres d'élégies fidèlement imités de ses chants si doux dans lesquels Cornelius Gallus célébra Lycoris. Hélas, Gallus chantait en 1 siècle d'or sous les regards des muses ozoniennes. Et moi, les dents des temps barbares, j'ai tracé avec un roseau du Nil mes hexamètres et mes pentamètres. Les ouvrages produits en cette époque et dans cette contrée sont voués à l'oubli. Certes, la beauté est ce qu'il y a de plus puissant au monde, et si nous étions faits pour la posséder toujours, nous nous soucierions aussi peu que possible du démiurge, du logos, des éons, de toutes les autres rêveries des philosophes. Mais j'admire, mon Paphnus, que tu viennes du fond de la Thébaïde me parler de Thaïs. » Ayant dit, il soupira lourdement. Et Paphnus le contemplait avec horreur, ne concevant pas qu'un homme pût avouer si tranquillement un tel péché. Il s'attendait à voir la terre s'ouvrir et Nicias s'abîmer dans les flammes. Mais le sol resta ferme et l'Alexandrin silencieux, le front dans la main, souriait tristement aux images de sa jeunesse envolée. Le moine s'étant levé, reprit d'une voix grave, « Sache donc, ô Nicias, qu'avec l'aide de Dieu, j'arracherai cette Thaïs aux immondes amours de la terre et la donnerai pour épouse à Jésus-Christ. Si l'Esprit-Saint ne m'abandonne pas, Thaïs quittera aujourd'hui cette ville pour entrer dans un monastère. « Crains d'offenser Vénus, répondit Nicias. C'est une puissante déesse, elle sera irritée contre toi, si tu lui ravis sa plus illustre servante. Dieu me protégera, dit Fannus. Puisse-t-il éclairer ton cœur, Odysseas, et te tirer de l'abîme où tu es plongé. Et il sortit. Mais Nicias l'accompagna sur le seuil, il lui posa la main sur l'épaule et lui répéta dans le creux de l'oreille: Crains d'offenser Vénus, sa vengeance est terrible. Paphnus, dédaigneux des paroles légères, sortit sans détourner la tête. Les propos de Nicias ne lui inspiraient que du mépris. Mais ce qu'il ne pouvait souffrir, c'est l'idée que son ami d'autrefois avait reçu les caresses de Thaïs. Il lui semblait que pécher avec cette femme, c'était pécher plus détestablement qu'avec tout autre. Il y trouvait une malice singulière, et Nicias lui était désormais en exécration. Il avait toujours haï l'impureté, mais certes les images de ce vice ne lui avaient jamais paru à ce point abominables. Jamais il n'avait partagé d'un tel cœur la colère de Jésus-Christ et la tristesse des anges. Il en éprouvait que plus d'ardeur attirait Thaïs du milieu des gentils, et il lui tardait de voir la comédienne afin de la sauver. Toutefois, il lui fallait attendre pour pénétrer chez cette femme que la grande chaleur du jour fût tombée. Or, la matinée s'achevait à peine, et Paphnus allait par les voies populeuses. Il avait résolu de ne prendre aucune nourriture en cette journée, afin d'être moins indigne des grâces qu'il demandait au Seigneur. À la grande tristesse de son âme, il n'osait entrer dans aucune des églises de la ville, parce qu'il les savait profanées par les Ariens qui avaient renversé la table du Seigneur. En effet, ces hérétiques, soutenus par l'empereur d'Orient, avait chassé le patriarche Athanase de son siège épiscopal, et il remplissait de troubles et de confusion les chrétiens d'Alexandrie. Il marchait donc à l'aventure, tantôt tenant ses regards fixés à terre par humilité, tantôt levant les yeux vers le ciel comme en extase. Après avoir erré quelque temps, il se trouva sur un des quais de la ville. Le port artificiel abritait devant lui d'innombrables navires aux sombres carènes, tandis que souriait au large, dans l'azur et l'argent, la mer perfide. Une galère qui pantait une Néréide à sa proue venait de lever l'ancre. Les rameurs frappaient l'onde en chantant. Déjà la blanche fille des eaux, couverte de perles humides, ne laissait plus voir aux moines qu'un fuyant profil. Elle franchit, conduite par son pilote, les trois passages ouverts sur le bassin de Nostos et gagna la haute mer, laissant derrière elle un sillage fleuri. Et moi aussi, songeait Paphnus, j'ai désiré jadis m'embarquer en chantant sur l'océan du monde. Mais bientôt j'ai connu ma folie et la Néréide ne m'a point emporté. En rêvant de la sorte, il s'assit sur un tas de cordages et s'endormit. Pendant son sommeil, il eut une vision. Il lui sembla entendre le son d'une trompette éclatante, et le ciel étant devenu couleur de sang, il comprit que les temps étaient venus. Comme il priait Dieu avec une grande ferveur, il vit une bête énorme qui venait à lui, portant au front une croix de lumière, et il reconnut le sphinx de Silsilé. La bête le saisit entre les dents sans lui faire de mal, et l'emporta pendu à sa bouche comme les chats sont accoutumés d'emporter leurs petits. Paphnus parcourut ainsi plusieurs royaumes, traversant les fleuves et franchissant les montagnes, et il parvint en un lieu désolé, couvert de roches affreuses, et de cendres chaudes. Le sol, déchiré en plusieurs endroits, laissait passer par ses bouches une haleine embrasée. La bête posa doucement Paphnus à terre et lui dit « Regarde !» Epaphnus, se penchant sur le bord de l'abîme, vit un fleuve de feu qui roulait dans l'intérieur de la terre entre un double escarpement de roches noires. Là, dans une lumière livide, des démons tourmentaient des âmes. Les âmes gardaient l'apparence des corps qui les avaient contenus, et même des lambeaux de vêtements y restaient attachés. Mais ces âmes semblaient paisibles au milieu des tourments. L'une d'elles, grande, blanche, les yeux clos, une bandelette au front, un sceptre à la main, chantait. Sa voix remplissait d'harmonie le stérile rivage. Elle disait les dieux et les héros. De petits diables verts lui perçaient les lèvres et la gorge avec des fers rouges. Et l'ombre d'Homère chantait encore. Non loin, le vieil Anaxagore, chauve et chenu, traçait au combat des figures sur la poussière. Un démon lui versait de l'huile bouillante dans l'oreille, sans pouvoir interrompre la méditation du sage. Et le moine découvrit une foule de personnes qui, sur la sombre rive, le long du fleuve ardent, lisaient ou méditaient avec tranquillité, ou conversaient en se promenant, comme des maîtres et des disciples à l'ombre des platanes de l'académie. Seul le vieillard Timoclès se tenait à l'écart et secouait la tête comme un homme qui nie. Un ange de l'abîme agitait une torche sous ses yeux, et Timoclès ne voulait voir ni l'ange ni la torche. Muet de surprise à ce spectacle, Paphnus se tourna vers la bête. Elle avait disparu. Et le moine vit à la place du sphinx une femme voilée qui lui dit « Regarde et comprends, tel est l'entêtement de ces infidèles, qu'ils demeurent dans l'enfer victimes des illusions qui les séduisaient sur la terre. La mort ne les a pas désabusés, car il est bien clair qu'il ne suffit pas de mourir pour voir Dieu. Ceux-là qui ignoraient la vérité parmi les hommes l'ignoreront toujours. Les démons qui s'acharnent autour de ces âmes, qui sont-ils sinon les formes de la justice divine? C'est pourquoi ces âmes ne la voient ni ne la sentent. Étrangères à toute vérité, elles ne connaissent point leur propre condamnation, et Dieu même ne peut les contraindre à souffrir. Dieu peut tout, dit l'abbé d'Antinoé. Oh, il ne peut l'absurde, répondit la femme voilée. Pour les punir, il faudra les éclairer, et s'ils possédaient la vérité, ils seraient semblables aux élus. Cependant, Paphnus, plein d'inquiétude et d'horreur, se penchait de nouveau sur le gouffre. Il venait de voir l'ombre de Nicias, qui souriait, le front ceint de fleurs, sous des myrtes en cendres. Près de lui, Aspasie de Milet, élégamment serrée dans son manteau de laine, semblait parler tout ensemble d'amour et de philosophie, tant l'expression de son visage était à la fois douce et noble. La pluie de feu qui tombait sur eux leur était une rosée rafraîchissante, et leurs pieds foulaient comme une herbe fine le sol embrasé. À cette vue, Paphnus fut saisi de fureur. « Frappe, mon Dieu ! S'écria-t-il, frappe ! C'est Nicias, qu'il pleure et qu'il gémisse, qu'il grasse des dents. Il a péché avec Thaïs. » Et Paphnus se réveilla dans les bras d'un marin robuste comme Hercule, qui le tirait sur le sable en criant « Paix, paix, l'ami ! Par pauvreté, vieux pasteur de phoques, tu dors avec agitation. Si je ne t'avais retenu, tu tombais dans le nostas. Oh, si vrai que ma mère vendait des poissons salés, je t'ai sauvé la vie. » « J'en remercie Dieu, » répondit Paphnus. Et s'étant mis debout, il marcha droit devant lui, méditant sur la vision qui avait traversé son sommeil. Cette vision, se dit-il, est manifestement mauvaise. Elle offense la bonté divine en représentant l'enfer comme dénué de réalité. Sans doute elle vient du diable. Il raisonnait ainsi parce qu'il savait discerner les songes que Dieu envoie de ceux qui sont produits par les mauvais anges. Un tel discernement est utile au solitaire qui vit sans cesse entouré d'apparitions, car en fuyant les hommes, on est sûr de rencontrer les esprits. Les déserts sont peuplés de fantômes. Quand les pèlerins approchaient du château en ruine où s'était retiré le saint ermite Antoine, ils entendaient des clameurs comme ils s'en élèvent au carrefour des villes dans les nuits de fête. Et ces clameurs étaient poussées par les diables qui tentaient ce saint homme. Paphnus se rappela ce mémorable exemple. Il se rappela saint Jean d'Égypte qui, pendant 60 ans, le diable voulut séduire par des prestiges. Mais Jean déjouait les ruses de l'enfer. Un jour pourtant, le démon, ayant pris le visage d'un homme, entra dans la grotte du vénérable Jean et lui dit « Jean, tu prolongeras ton jeûne jusqu'à demain soir. » Et Jean, croyant entendre un ange, obéit à la voix du démon et jeûna le lendemain jusqu'à l'heure de vêpres. C'est la seule victoire que le prince des ténèbres ait jamais remportée sur saint Jean l'Égyptien. Et cette victoire est petite. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si Paphnus reconnut tout de suite la fausseté de la vision qu'il avait eue pendant son sommeil. Tandis qu'il reprochait doucement à Dieu de l'avoir abandonné au pouvoir des démons, il se sentit poussé et entraîné par une foule d'hommes qui couraient tous dans le même sens. Comme il avait perdu l'habitude de marcher par les villes, il était ballotté d'un passant à un autre ainsi qu'une masse inerte. Et, s'étant embarrassé dans les plis de sa tunique, il pensa tomber plusieurs fois. Désireux de savoir où allaient tous ces hommes, il demanda à l'un d'eux la cause de cet empressement. « Étranger, ne sais-tu pas, lui répondit celui-ci, que les jeux vont commencer et que Thaïs paraîtra sur la scène. » Tous ces citoyens vont au théâtre et j'y vais comme eux. Te plairait-il de m'y accompagner ? Découvrant tout à coup qu'il était convenable à son dessein de voir Thaïs dans les jeux, Paphnus suivit l'étranger. Déjà, le théâtre dressait devant eux son portique orné de masques éclatants et sa vaste muraille ronde peuplée d'innombrables statues. En suivant la foule, ils s'engagèrent dans un étroit corridor au bout duquel s'étendait l'amphithéâtre éblouissant de lumière. Ils prirent leur place sur un des rangs de gradins qui descendait en escalier vers la scène, vide encore d'acteurs, mais décoré magnifiquement. La vue n'en était point cachée par un rideau, et l'on y remarquait un tertre semblable à ceux que les anciens peuples dédiaient aux ombres des héros. Ce tertre s'élevait au milieu d'un camp. Des faisceaux de lances étaient formés devant les tentes et des boucliers d'or pendaient à des mâts parmi des rameaux de laurier et des couronnes de chêne. Là, tout était silence et sommeil. Mais un bourdonnement, semblable au bruit que font les abeilles dans la ruche, emplissait l'hémicycle chargé de spectateurs. Tous les visages, rougis par le reflet du voile de pourpre qui les couvrait de ses longs frissons, se tournait avec une expression d'attente curieuse vers ce grand espace silencieux rempli par un tombeau et des tentes. Les femmes riaient en mangeant des citrons et les familiers des jeux s'interpellaient gaiement d'un gradin à l'autre. Paphnus priait au-dedans de lui-même et se gardait des paroles vaines, mais son voisin commença à se plaindre du déclin du théâtre. Autrefois, dit-il, d'habiles acteurs déclamaient sous le masque les vers d'Éripide de Ménandre. Maintenant, on ne récite plus les drames, on les mime, et des divins spectacles dont Bacchus sonnera dans Athènes, nous n'avons gardé que ce qu'un barbare, un scythe même, peut comprendre. l'attitude et le geste. Le masque tragique dont l'embouchure armée de lames de métal enflait le don de la voix, le cothurne qui élevait les personnages à la taille des dieux, la majesté tragique et le chant des beaux vers, pouf, tout cela s'en est allé. Des mimes, des ballerines, le visage nu, remplace Paulus et Roscius. Qu'eussent dit les Athéniens de Périclès s'ils avaient vu une femme se montrer sur la scène? Il est indécent qu'une femme paraisse en public. Oh, nous sommes bien dégénérés pour le souffrir. Aussi vrai que je me nomme Dorion, la femme est l'ennemi de l'homme et la honte de la terre. Tu parles sagement, répondit Paphnus. La femme est notre pire ennemi. Elle donne le plaisir et c'est en cela qu'elle est redoutable. Par les dieux immobiles, s'écria Dorion, la femme apporte aux hommes non le plaisir, mais la tristesse, le trouble et les noirs soucis. L'amour est la cause de nos maux les plus cuisants. Écoute, étranger, je suis allé dans ma jeunesse à Trézène, en Argolide, et j'y ai vu un myrte d'une grosseur prodigieuse dont les feuilles étaient couvertes d'innombrables piqûres. Or, voici ce que rapportent les Trézoniens au sujet de ce myrte. La reine Phèdre, du temps qu'elle aimait Hippolyte, demeurait tout le jour languissamment couchée sous ce même arbre qu'on voit encore aujourd'hui. Dans son ennui mortel, ayant tiré l'épingle d'or qui retenait ses blonds cheveux, elle en perçait les feuilles de l'arbuste aux baies odorantes. Toutes les feuilles furent ainsi criblées de piqûres. Et après avoir perdu l'innocent qu'elle poursuivait d'un amour incestueux, Phèdre, tu le sais, mourut misérablement. Elle s'enferma dans sa chambre nuptiale et se pendit par sa ceinture d'or à une cheville d'ivoire. Les dieux voulurent que le myrte, témoin d'un si cruel misère, continua à porter sur ses feuilles nouvelles des piqûres d'aiguilles. J'ai cueilli une de ces feuilles. Je l'ai placée au chevet de mon lit afin d'être sans cesse averti par sa vue de ne point m'abandonner aux fureurs de l'amour et pour me confirmer dans la doctrine du divin Épicure, mon maître, qui enseigne que le désir est redoutable. Mais, à proprement parler, l'amour est une maladie de foi, et l'on n'est jamais sûr de ne pas tomber malade. Paphnus demanda, « Dorion, quels sont tes plaisirs ?» Dorion répondit tristement, je n'ai qu'un seul plaisir, et je conviens qu'il n'est pas vif, c'est la méditation. Avec un mauvais estomac, il n'en faut pas chercher d'autre. » Prenant avantage de ces dernières paroles, Paphnus entreprit d'initier l'épicurien aux joies spirituelles que procure la contemplation de Dieu. Il commença. « Entends la vérité, Dorion, et reçois la lumière. » Comme il s'écriait de la sorte, il vit de toutes parts des têtes et des bras tournés vers lui, qui lui ordonnaient de se taire. Un grand silence s'était fait dans le théâtre, et bientôt éclatèrent les sons d'une musique héroïque. Les jeux commençaient. On voyait des soldats sortir des tentes et se préparer au départ, quand, par un prodige effrayant, une nuée couvrit le sommet du tertre funéraire. Puis, cette nuée s'étant dissipée, l'ombre d'Achille apparut, couverte d'une armure d'or. Étendant le bras vers les guerriers, elle semblait leur dire « Quoi, vous partez, enfants de Danaos? Vous retournez dans la patrie que je ne verrai plus et vous laissez mon tombeau sans offrande ?» Déjà les principaux chefs des Grecs se pressaient au pied du tertre. Acanas, fils de Thésée, le vieux Nestor, Agamemnon, portant le sceptre et les bandelettes, contemplaient le prodige. Le jeune fils d'Achille, Pyrrhus, était prosterné dans la poussière. Ulysse, reconnaissable au bonnet doux, s'échappait sa chevelure bouclée, montrait par ses gestes qu'il approuvait l'ombre du héros. Ils disputaient avec Agamemnon et l'on devinait leurs paroles. Achille, disait le roi d'Ithaque, est digne d'être honoré parmi nous, lui qui mourut glorieusement pour l'Hellas. Il demande que la fille de Priam, la vierge Polyxène, soit immolée sur sa tombe. Danaïn, contentez les mânes du héros et que le fils de Pélée se réjouisse dans le Hadès. Mais le roi des rois répondait, épargnons les vierges troyennes que nous avons arrachées aux autels. Assez de maux ont fondu sur la race illustre de Priam. Il parlait ainsi parce qu'il partageait la couche de la sœur de Polyxène, et le sage Ulysse lui reprochait de préférer le lit de Cassandre à la lance d'Achille. Tous les Grecs l'approuvèrent avec un grand bruit d'armes entrechoquées. La mort de Polyxène fut résolue et l'ombre apaisée d'Achille s'évanouit. La musique, tantôt furieuse et tantôt plaintive, suivait la pensée des personnages. L'assistance éclata en applaudissements. Paphnus, qui rapportait tout à la vérité divine, murmura « Ô lumière et ténèbres répandues sur les gentils !» De tels sacrifices parmi les nations annonçaient et figuraient grossièrement le sacrifice salutaire du Fils de Dieu. « Mais toutes les religions enfantent des crimes, » répliqua l'épicurien. Par bonheur, un grec divinement sage va affranchir les hommes des vaines terreurs de l'inconnu. Cependant, Hécube, ses blancs cheveux épars, sa robe en lambeaux, sortait de la tente où elle était captive. Ce fut un long soupir quand on vit paraître cette parfaite image du malheur. Hécube, averti par un songe prophétique, gémissait sur sa fille et sur elle-même. Ulysse était déjà près d'elle et lui demandait Polyxène. La vieille mère s'arrachait les cheveux, se déchirait les joues avec les ongles et baisait les mains de cet homme cruel qui, gardant son impitoyable douceur, semblait dire « Sois sage, Hécube, et cède à la nécessité. » Il y a aussi dans nos maisons de vieilles mères qui pleurent leurs enfants endormis à jamais sous les pins de l'Ida. Et Cassandre, reine autrefois de la florissante Asie, maintenant esclave, souillait de poussière sa tête infortunée. Mais voici que, soulevant la toile de la tente, se montre la vierge Polyxène. Un frémissement unanime agita les spectateurs. Ils avaient reconnu Thaïs. Paphnus la revit, celle-là qu'il venait chercher. De son bras blanc, elle retenait au-dessus de sa tête la lourde toile. Immobile, semblable à une belle statue, mais promenant autour d'elle le paisible regard de ses yeux de violette, douce et fière, elle donnait à tous le frisson tragique de la beauté. Un murmure de louanges s'éleva, et Paphnus, l'âme agitée, contenant son cœur avec ses mains, soupira. « Pourquoi donc, ô mon Dieu, donnes-tu ce pouvoir à une de tes créatures ?» Dorion, plus paisible, disait « Certes, les atomes qui s'associent pour composer cette femme présentent une combinaison agréable à l'œil. Ce n'est qu'un jeu de la nature et ces atomes ne savent ce qu'ils font. Oh, ils se séparent un jour avec la même indifférence qu'ils se sont unis. Où sont maintenant les atomes qui formèrent Laïs ou Cléopâtre ?» Je leur dis qu'on vient pas, les femmes sont quelquefois belles, mais elles sont soumises à de fâcheuses disgrâces et à des incommodités dégoûtantes. C'est à quoi songent les esprits méditatifs, tandis que le vulgaire des hommes n'y fait point attention. Et les femmes inspirent l'amour, bien qu'il soit déraisonnable de les aimer. Ainsi, le philosophe et l'ascète contemplaient Thaïs et suivaient leurs pensées. Ils n'avaient vu ni l'un ni l'autre Hécube tourner vers sa fille, lui dire par ses gestes « Essaie de fléchir le cruel Ulysse, fais parler tes larmes, ta beauté, ta jeunesse. » Thaïs, ou plutôt Polyxène elle-même, laissa retomber la toile de la tente. Elle fit un pas et tous les cœurs furent domptés. Et quand, d'une démarche noble et légère, elle s'avança vers Ulysse, le rythme de ses mouvements, qu'accompagnait le son des flûtes, faisait songer à tout un ordre de choses heureuses, et il semblait qu'elle fût le centre divin des harmonies du monde. On ne voyait plus qu'elle, et tout le reste était perdu dans son rayonnement. Pourtant, l'action continuait. Le prudent fils de Laërte détournait la tête et cachait sa main sous son manteau afin d'éviter les regards, les baisers de la suppliante. La Vierge lui fit signe de ne plus craindre. Ses regards tranquilles disaient « Ulysse, je te suivrai pour obéir à la nécessité parce que je veux mourir. Fille de Priam et sœur d'Hector, ma couche autrefois jugée digne des rois ne recevra pas un maître étranger. Je renonce librement à la lumière du jour. » Hécube, inerte dans la poussière, se releva soudain et s'attacha à sa fille d'une étreinte désespérée. Polyxène dénoua avec une douceur résolue les vieux bras qui la liaient. On croyait l'entendre. « Mère, ne t'expose pas aux outrages du maître. N'attends pas que t'arrachant à moi, il ne te traîne indignement. Plutôt, mère bien-aimée, tends-moi cette main ridée et approche tes joues creuses de mes lèvres. » La douleur était belle sur le visage de Thaïs. La foule se montrait reconnaissante à cette femme de revêtir ainsi d'une grâce surhumaine les formes et les travaux de la vie, et Paphnus, lui pardonnant sa splendeur présente en vue de son humilité prochaine, se glorifiait par avance de la sainte qu'il allait donner au ciel. Le spectacle touchait au dénouement. Hécube tomba comme morte, et Polyxène, conduite par Ulysse, s'avança vers le tombeau qu'entourait l'élite des guerriers. Elle gravit, au bruit des chants de deuil, le tertre funéraire au sommet duquel le fils d'Achille faisait dans une coupe d'or des libations aux mains du héros. Quand les sacrificateurs levèrent les bras pour la saisir, elle fit signe qu'elle voulait mourir libre comme il convenait à la fille de tant de rois. Puis, déchirant sa tunique, elle montra la place de son cœur. Pyrrhus y plongea son glaive en détournant la tête, et par un habile artifice, le sang jaillit à flots de la poitrine éblouissante de la Vierge qui, la tête renversée, les yeux nageant dans l'horreur de la mort, tomba avec décence. Cependant que les guerriers voilaient la victime et la couvraient de lys et d'anémone, des cris d'effroi et des sanglots déchiraient l'air, et Paphnus, soulevé sur son banc, prophétisait d'une voix retentissante « Gentil, vis adorateur des démons, et vous, Ariens, plus infâme que les idolâtres, instruisez-vous. Ce que vous venez de voir est une image et un symbole. Cette fable renferme un sens mystique et bientôt, la femme que vous voyez là sera immolée, hostie bienheureuse, au Dieu ressuscité. » Déjà, la foule s'écoulait en flots sombres dans les vomitoires. L'abbé d'Antinoé, échappant à Dorion, surpris, gagna la sortie en prophétisant encore. Une heure après, il frappait à la porte de Thaïs. La comédienne, alors dans le riche quartier de Rakotis, près du tombeau d'Alexandre, habitait une maison entourée de jardins ombreux, dans lesquels s'élevaient des rochers artificiels et coulait un ruisseau bordé de peupliers. Une vieille esclave noire, chargée d'anneaux, vint lui ouvrir la porte et lui demanda ce qu'il voulait. « Je veux voir Thaïs, répondit-il. Dieu m'est témoin que je ne suis venu ici que pour la voir. » Comme il portait une riche tunique et qu'il parlait impérieusement, l'esclave le fit entrer. « Tu trouveras Thaïs, dit-elle, dans la grotte des nymphes. »